podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast des dossiers de frontières des séries. Œil pour œil, dent pour dent, cette célèbre maxime de la loi du talion a été appliquée au sens le plus littéral du terme dans une série d'ABC, je veux bien sûr parler de Revenge. Cette série de 4 saisons toujours en cours a été créée par Mike Kelley en 2011. Ce dernier avait déjà officié pour des séries comme Les Frères Scott ou Swing Town. Le voilà désormais aux commandes d'une des séries phares d'ABC avec Once Upon a Time, en rassemblant en moyenne 8 millions de téléspectateurs devant leur écran. Rayon casting, on retrouve quelques visages connus comme Emily Van Camp. La belle canadienne s'était déjà illustrée dans Brothers and Sisters et dans le deuxième volet de la saga Captain America. Elle partage le haut de l'affiche avec Madeleine Stowe, qui a fait ses armes essentiellement au cinéma, notamment dans L'Armée des 12 Singes ou Le Déshonneur d'Elizabeth Campbell. Côté acteur masculin, on peut compter sur Nick Wexler, Kyle Valenti dans Roswell, Gabriel Mann, aperçu dans Mad Men, mais aussi Urgence et La Caravane de l'Étrange, ou encore Joshua Bowman. La série met en scène les Grayson, une grande famille fortunée résidant dans les Hamptons. Mais derrière la façade glamour de personnalités riches et célèbres se cachent des secrets inavouables et surtout un grand esprit de vengeance. Il faut dire que la série est une adaptation très libre du conte de Monte Cristo. Comprenez, un personnage fait son grand retour dans une ville sous une fausse identité pour faire payer toutes les personnes responsables de son malheur. Revenge est donc un drama dans toute sa splendeur que n'auraient pas renié les habitants de Melrose Place. Rebondissement, trahison, coup bas, meurtre, résurrection, la série remplit le cahier des charges des fictions de ce genre. Propose-t-elle toutefois d'autres degrés de lecture ou est-ce une soupe réchauffée, appétissante sur le papier mais peu surprenante dans le fond? C'est ce que Nathanaël Picasse a tenté de savoir. Bonjour.
Bonjour.
Et pour nous accompagner aujourd'hui, Sophie Sourdiocourt.
Bonjour.
Alors Nathanaël, as-tu réservé ton billet pour les Hamptons?
Mais pas encore, mais j'y songe sincèrement. Et c'est marrant parce que c'est bien que tu en parles parce que les Hamptons, d'emblée, c'est une région qui n'a pas souvent été mise en scène dans les séries télévisées.
On en parle souvent.
Oui, on en parle souvent, mais c'est vrai qu'après, ça n'a pas été souvent mis en scène. Souvent, on met en scène les grandes villes comme New York, Chicago, Philadelphie, Las Vegas. Et quand soleil il y a, on est plutôt du côté de Miami, de Beverly Hills, et les grands classiques en tout cas.
Sauf pour quelques événements en général où ils partent un petit week-end, comme dans Gossip Girl par exemple, où on a vu plusieurs fois les Hamptons.
Effectivement. Alors les Hamptons, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une zone de villégiature les plus prisées de l'élite américaine, et en particulier des New-Yorkais. Elle est située en fait à la pointe de l'île de Long Island, et les Hamptons font se côtoyer à la fois un petit village de pêcheurs et les grandes fortunes de Wall Street.
C'est un peu Saint-Tropez américain.
Oui, on va dire ça parce que ça a pas l'air d'être, en tout cas visuellement à l'écran, ça a pas l'air d'être le truc absolument merveilleux, c'est juste l'élite qui s'y trouve quoi. Et donc la série met en scène la famille Grayson, présentée comme les grands parmi les grands, à la fois adulée et jalousée par toute la communauté locale. Cette faune de riches s'est même élue une reine en la personne de Victoria Grayson. C'est vers elle que toutes les attentions et les regards sont tournés. Elle est présentée vraiment comme la reine. C'est comme ça qu'il la présente dans la série. Mais cette mécanique bien huilée va s'enrayer au moment de l'arrivée d'Emily Thorne. Cette jeune fille ambitieuse achète la maison voisine du manoir des Grayson et jette son dévolu sur Daniel, le fils de Victoria. Et très rapidement, le téléspectateur apprend qu'Emily Thorne est animée par une soif de vengeance à nul autre pareil. On apprend vite qu'elle avait habité dans les Hamptons avec son père lors de son enfance, sous le nom d'Amanda Clark. Et son père avait été manipulé par les Grayson et injustement accusé de terrorisme. Il a été enfermé en prison et il y connaîtra une fin funeste en se faisant poignarder lors d'une rixe. Et donc, folle de rage, sa fille ruminera sa revanche pendant de nombreuses années. Elle revient ici riche, entraînée au Japon par un maître de la vengeance. Alors ça, c'est vraiment une des particularités de la série qui flirte quand même fortement avec la mythologie des super-héros. C'est là où on voit un peu le second degré, effectivement, de la série, c'est qu'ils assument ce côté...
Over the top.
Oui, too over much, the top, oui. Too much, clairement. Donc elle revient entraînée, donc elle peut foutre des mandales à qui elle veut, elle est super entraînée. Pour elle, c'est une mission qu'elle s'est donnée, vraiment, clairement.
Et ça revient régulièrement qu'elle donne des coups de tatane comme ça?
Alors, ça revient assez régulièrement. Je dirais 2 à 3 fois par saison. Ça vient en tout
oui.
cas.
C'est quand même pas Alias.
Non. D'accord. Non, clairement. Parce qu'elle est plutôt après dans les coups bas. Mais effectivement, quand il faut se battre, elle est là. Et en général, c'est elle qui prend le dessus et elle met KO la plupart des mecs.
Un léger côté Buffy.
Oui.
On en parle tantôt, je crois.
Non, mais on peut en parler maintenant. Non, mais c'est vrai qu'elle a un petit côté Buffy, effectivement, sur le fait qu'elle assomme des mecs 3 fois plus costauds qu'elle. C'est juste le petit clin d'œil. Il faut savoir que, bon, elle revient sous le nom d'Emily Sorn, qui est une fausse identité, évidemment. Personne ne la reconnaît, puisque les faits dans lesquels son père a été impliqué en tant que terroriste sont déroulés plus de 15 ans auparavant. Et donc, voilà, personne ne la reconnaît. C'est une petite fille à l'époque. Et c'est le petit côté pratique de la série, c'est que personne ne se dit, tiens, il y a un petit air de ressemblance. Et donc, en fait, elle n'aura de cesse de pourrir la vie des Grayson pour laver le nom de son père. Et sa vendetta se focalisera en particulier sur Victoria, puisque cette dernière avait entretenu une relation amoureuse avec son père, avec le père d'Amanda, et elle l'avait trahi pour sauver sa famille. Dans sa vendetta, elle fera également d'autres victimes au passage, puisque Emily possède une boîte contenant les notes de son père et qui énonce toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au complot, et elle va les éliminer méthodiquement.
C'est assez comique parce que tu parlais tout à l'heure de super-héros et de vigilantes. Quand tu me parles de cette liste, moi ça me fait aussi penser à Arrow qui a aussi un carnet de son père avec les personnes à éliminer pour remettre la justice dans la ville.
Oui, complètement, ou alors même dans Kill Bill aussi, elle a aussi sa petite liste de personnes à éliminer. Donc voilà.
Donc effectivement le rapport avec super-héros, vigilante, on est vraiment dans le thème.
Voilà, c'est en filigrane, mais moi je trouve que si on commence à regarder le côté second degré effectivement de la série, moi j'y vois une super-héroïne effectivement. Mmh. Quoi. Et d'ailleurs, la série va se prolonger avec des comics qui vont raconter l'histoire d'Emily Sorn quand elle s'entraîne au Japon notamment, et donc là qui va accentuer d'autant plus cette mythologie de super-héros. Emily va éliminer méthodiquement, comme je disais, toutes ces personnes, non pas en les tuant, mais en pire, en tout cas pire dans les Hamptons, c'est en détruisant leur réputation et ou leur image, ce qui est vraiment là, terrible pour ces des gens qui sont vraiment dans une soif de reconnaissance et de la peur du « quand dira-t-on ».
Et d'ailleurs, les personnages vont souvent disparaître après.
Oui,
généralement,
oui, oui.
À part voilà. Évidemment la famille Grayson qui elle reste, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages satellites qui ont eu une implication plus ou moins grande dans le complot de David Clarke, qui du jour au lendemain après, hop, une fois qu'ils sont dénoncés et mis en pâture par Emily, disparaissent assez
complètement, effectivement. Et ils sont éliminés effectivement, oui, scénaristiquement en tout cas. Mais voilà, la belle mécanique ici d'Emily va se gripper parce que quand elle revient ici dans les Hamptons, eh bien elle va se rendre compte que Jack, son amour d'enfance en fait, vit toujours là-bas. Jack ne la laisse pas indifférente et c'est assez réciproque. Bien sûr, il ne l'a pas reconnue Amanda, il pense que c'est Emily Sorn, mais il se sent inexorablement attiré par elle.
Je suis désolé de t'avoir fait quitter la réception. Mais je me voyais pas très bien te dire ça là-bas.
Me dire quoi?
Dès la première fois que je t'ai vu, j'ai su qu'il y avait quelque chose avec toi. Mais j'arrivais pas à savoir ce que c'était. Jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, parfois, quand on est en bateau, seul sur l'océan, qu'on attrape le vent et que les voiles se gonflent. Alors, le bateau prend vie sous nos pieds et à ce moment-là, il n'y a plus seulement le vent, l'océan et le voilier. On sent qu'il y a quelque chose d'autre qui intervient, quelque chose qui nous pousse vers l'avant et qui en même temps nous enveloppe tout entier. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Tu te fais parfaitement comprendre. Seulement, tu t'adresses à la mauvaise fille, Jack. Je suis avec Daniel, je croyais que tu le savais.
Oui, je le sais. Et normalement, je fais pas ce genre de choses. Je sens que c'est le genre de sentiment qu'on éprouve qu'une fois ou deux dans sa vie, si on a de la chance. Dis-moi que je suis le seul à le ressentir. Dis-moi que je suis le seul et je t'ennuierai plus avec ça.
Je suis désolée, Jack.
Non, c'est pas grave. J'avais cru que... Je vais te raccompagner à la soirée.
Non, laisse, ne t'embête pas.
Non, non. Ne te sens pas obligé de dire quelque chose. Daniel est... Il semble être un gentil garçon et j'aurais pas dû venir t'embarrasser avec ça. Toutes mes excuses.
On voit quand même que les relations amoureuses, c'est pas vraiment la chose la plus facile dans la série. Enfin, plus pour Emily qui est là, un dessin caché, mais est-ce que c'est vrai pour tout le monde ou...
Ah, mais c'est vrai pour tout le monde. Je crois qu'il n'y a aucun couple qui termine glorieusement dans la série. Alors, bon, on a soit des mariages complètement ratés avec Conrad et Victoria, donc les fameux Grayson. Emily, évidemment, sa vie amoureuse est un désastre. Jack va tomber amoureux d'une autre femme qui est en fait la vraie Millie Thorne, mais qui a échangé son identité avec Amanda, donc c'est qui complique d'autant plus la chose, qui terminera aussi de manière assez funeste. Charlotte qui tombera amoureuse du frère de Jack. Charlotte, c'est la fille Grayson aussi, qui tombera amoureuse du frère de Jack, et là aussi ça va partir complètement en sucette. Donc on va dire que l'amour n'est pas à l'ordre du jour dans la série. Et puis il y a aussi le personnage de Nolan, donc, dont je n'ai pas encore parlé, et qui est vraiment le sidekick, le nerd informatique, qui est vraiment l'aide d'Emily.
Le Robin d'Emily.
Oui, voilà, le Robin d'Emily, clairement, bisexuel, mais non, plutôt homosexuel. Mais enfin, de temps en temps, il oublie qu'il est homosexuel, c'est un peu particulier. Mais en fait, pour la petite histoire, c'est une sorte d'informaticien de génie qui est à la tête d'un empire, qui, alors qu'il n'a pas encore 30 ans, et qui a été à la une de tous les journaux, etc. On a un petit clin d'œil à Mark Zuckerberg derrière ce personnage. Et Nolan est d'ailleurs persuadé de l'innocence de David Clark, puisqu'en fait, le père d'Emily a été le premier à croire à lui en investissant dans la première société de Nolan, ce qui en fait d'Emily, d'ailleurs, fait son actionnaire principal par ricochet, et donc ce qui fait qu'elle est très largement à l'abri du besoin et qu'elle peut mener à terme sa vengeance, parce qu'en fait, évidemment, financièrement, elle n'a aucun problème. Mais le personnage de Nolan est effectivement très pratique, puisque c'est le sidekick qui permet toujours à Emily de se sortir d'un faux pas, soit en effaçant des preuves sur Internet, soit en hackant des ordinateurs, en modifiant une photo, en plaçant des caméras partout. C'est assez pratique, je dois dire. Parfois, c'est un petit peu gros, parce qu'il est toujours facilement là pour sauver Emily d'un faux pas. Mais bon, on accepte assez vite cette relation. Et puis la relation qu'ils entretiennent d'amitié, je crois qu'ils se respectent énormément, ces deux personnages, est assez sympa.
Bah, c'est d'ailleurs à peu près la seule relation d'Emily sur laquelle on ne doute pas trop des sentiments, enfin en tout cas des sentiments totalement amicaux, mais où il n'y a pas de plan derrière, où il n'y a pas de recherche de détruire l'autre.
Non, clairement, c'est les seuls. Et je crois qu'ils se respectent et qu'ils s'aiment. En fait, c'est la vraie histoire d'amour, la seule, je crois, histoire d'amour de la série. Ce qui est vraiment très intéressant dans la série aussi, c'est le duel qui va s'installer entre Emily et Victoria, parce que si Victoria, durant la première saison, subit un petit peu les assauts d'Emily parce qu'elle ne sait pas trop qui elle est et elle est un petit peu innocente sur ce côté-là, elle va assez rapidement quand même se rendre compte qu'Emily lui veut du mal, et l'animosité entre l'héroïne et Victoria va être très rapidement palpable, et c'est véritable guerre des nerfs qui va s'installer entre les deux femmes et qui fera véritablement le sel de la série. Elles vont vraiment multiplier les coups bas tordus, se rendant coup pour coup jusqu'en fait détruire tout ce qui les entoure, parce qu'en fait aucune des deux ne veut s'avouer vaincue, et c'est dans ces conséquences de ces deux vengeances que la série tire vraiment une réflexion timide mais quand même présente sur cette fameuse loi du talion. Car effectivement, si Emily est présentée d'abord comme une victime, ben en fait on se rend compte qu'elle est pas si blanche que ça. Finalement, elle fait aussi beaucoup de mal autour d'elle, elle se fait du mal à elle-même aussi, puisqu'il y aura des conséquences qui seront directement dramatiques pour elle. Il y a une vraie réflexion par rapport à ça, en se disant, est-ce qu'il faudrait pas mettre un terme à un moment à ce cycle de vengeance,
et se rendre compte aussi que finalement, quand on détruit la vie de quelqu'un, on détruit aussi la vie des gens qui l'entourent.
Clairement, et
d'autant sont probablement pas responsables de ce qui s'est passé.
Non, certainement. Et puis en plus, c'est un petit spoil, mais c'est assez vite annoncé en tout cas dans la série, c'est que Charlotte, donc la fille Grayson, est en fait la demi-sœur d'Emily, puisque c'est un enfant que Victoria a eu avec David Clark. Donc Emily, en fait, continue à détruire cette famille tout en sachant qu'elle blesse aussi sa sœur, et ce qui lui sera reproché d'ailleurs dans la saison 4 lorsqu'elle fera enfin son grand coming out par rapport à sa sœur, ce qui évidemment va provoquer de nouvelles tensions.
Victoria, je sais que vous êtes là. Écoutez, je sais que vous avez peur, mais vous ne devriez pas. En tout cas, pas de moi.
Je n'ai pas peur de vous, Frank. Il ne faut plus que je vous parle.
Non, attendez, ne raccrochez pas. Répondez d'abord à une question. Comment Conrad savait-il qu'il y avait une caméra de surveillance dans l'appartement de Lydia?
Je suppose que c'est lui qui a dû l'installer.
Tout seul, sans que je sois au courant?
Quelle différence ça peut faire? Ça ne change rien à ce qui s'est passé.
Au contraire, ça change tout. Je crois que j'ai été piégé. En fait, je crois qu'on s'est tous fait piéger.
n'appelez plus ma femme ou je me chargerai personnellement d'en finir avec vous. Est-ce que c'est clair? À quoi tu joues, hein? C'est un meurtrier.
Tu en es certain?
Tu as vu toi-même ce qu'il était capable de
je
faire.
Je ne sais pas ce que j'ai vu. Cette caméra de surveillance, c'est toi qui l'as installée?
Non.
Alors qui?
On peut entendre dans cet extrait qu'il y a quand même beaucoup de rebondissements. On cherche un peu à
surprendre les téléspectateurs. Voilà. Effectivement, c'est la véritable marque de fabrique. En fait, c'est un gimmick de la série. Chaque épisode est entrecoupé invariablement de cliffhangers, de retournements de situation. Et en fait, à chaque fois, les scénaristes laissent croire qu'un personnage a un avantage sur l'autre pour en fait dévoiler une belle manipulation à la fin. Et c'est pas toujours celui qu'on croyait qui s'en sort, en fait. Donc la série joue énormément sur les jeux de pouvoir et les faux-semblants.
Mais c'est une mécanique qui, j'ai l'impression, finit un peu par rouiller, non? Parce que j'ai le souvenir d'Alias qui travaillait aussi beaucoup sur ce genre de phénomène et de cliffhanger. À la fin, ça devenait complètement lourdingue.
Mais oui, c'est ça, en fait. C'est que la série, elle a les défauts de ses qualités. C'est qu'effectivement, on est vite accro et on a envie de connaître la suite, mais très vite, à vouloir trop surprendre le téléspectateur, c'est sûr que Revenge sacrifie grandement en cohérence des personnages dont les allégeances change rapidement, c'est toujours pas facile de comprendre leur motivation. Alors on a une qualité des personnages qui est très bancale. C'est sûr qu'on a les deux personnages féminins principaux, Emily et Victoria, qui sont assez fascinants quand même dans leur affrontement. On a Conrad, le mari de Victoria, qui est le patriarche des Grayson, qui est assez délicieux en méchant, mais parce que lui, il est totalement assumé et assez classieux. En fait, il assume être un pourri. Il s'en vante quasiment, contrairement d'ailleurs à Victoria qui, elle, se donne le bon rôle en disant à chaque fois « mais je fais ça pour mes enfants, je fais ça par amour, etc. » Mais en fait, finalement, qui est tout aussi néfaste. Mais par contre, Conrad, ce qui est chouette, c'est que c'est un vrai beau salaud et qui est finalement honnête dans sa démarche d'être un salaud, et ce qui rend d'ailleurs ses éclairs de bonté d'autant plus touchants. Lorsque notamment il apprend que Charlotte n'est pas sa fille, il la rejette pas et au contraire il cherche encore plus à la protéger. Ou lorsqu'il croit être atteint d'une maladie incurable, il a des petits élans comme ça beaucoup plus touchants. C'est rare, mais ça le rend...
C'est léger quand même.
Oui, c'est très léger, mais il est assez savoureux dans son rôle de gros salaud, en fait. On a Nolan Ross, donc le sidekick nerd, qui est assez amusant à suivre. Par contre, les autres personnages ont tous une psychologie qui est vraiment assez faiblement développé. On sent vraiment que les scénaristes les maintiennent sous une forme de page blanche, en fait, pour pouvoir les faire agir au gré des rebondissements. Alors le plus symptomatique, c'est Charlotte, pour le coup, qui est pour le moment la fille douce, tournée vers les autres, et dès qu'il lui arrive un petit coup dur, alors elle sombre au choix dans la drogue, dans l'alcool, la vengeance, la mesquinerie, peut devenir une peste, etc.
On attend la prostitution maintenant.
Oui, c'est ça, c'est presque ça. Donc, mais elle se rachète toujours une petite conduite après. Je voulais pas que ça arrive comme ça et tout. Et t'as envie de dire, mais c'est une espèce de sale garce. Son frère Daniel est tout aussi versatile. Alors c'est vrai qu'il est présenté comme un beau gosse riche, spoilé au début, mais il fait preuve au départ d'une bonne volonté d'émancipation par rapport à ses parents. Il veut pas reproduire leurs erreurs. C'est sûr que la série montre que c'est sa relation avec Emily qui finit par le rendre dingue, et c'est vrai que le personnage finit par partir complètement en vrille. Et on a aussi Ashley. Ça, c'est un personnage dont j'ai peu parlé, mais dont l'intérêt m'a toujours été un grand mystère pour moi. Elle, en fait, c'est l'organisatrice des nombreux événements qui se passent chez les Grayson, qui termine invariablement en cacophonie absolue, puisque à chaque fois, c'est le moment que choisit Emily pour détruire la vie ou la réputation de quelqu'un.
Comme dans Dynasty, on pousse les gens dans des robes à paillettes directement dans la piscine, ou bien non, ça n'arrive jamais.
Non, mais bon, on y est presque.
Non, mais il y a des chutes dans l'eau quand même.
Il y a des chutes dans l'eau, effectivement. Pour Ashley, bah, c'est elle qui en fait introduit Emily auprès des Grayson, mais elle se montre assez vite opportuniste et elle va où le vent l'amène. Alors des fois, elle va aider les Grayson, une fois elle va aider Emily, une autre fois elle va se rapprocher de Daniel jusqu'à sortir avec lui, mais elle va aussi être la maîtresse de Conrad, etc. Et en fait, on voit que vraiment les scénaristes savent pas trop quoi en faire. Résultat, au début de la saison 3, ils la mettent dans un avion littéralement et allez, retourne chez toi ma chérie. Et on n'en entend plus parler. En fait, on a appris que le contrat de l'actrice n'avait pas été renouvelé. Gros problème aussi dans la série, c'est que la série ne tient pas toujours dans la durée. Si la première saison se laisse quand même regarder avec un certain plaisir parce qu'elle est assez bien structurée, la seconde saison est une véritable catastrophe pour moi, parce qu'elle multiplie les intrigues et les sous-intrigues et fait intervenir le bon vieux classique société secrète qui dirige le monde, qui s'appelle Initiative, mon dieu. Alors là, on vire carrément dans la mauvaise fiction d'espionnage avec des personnages surpuissants qui ont des yeux, des oreilles partout, qui passent la moitié du temps dans l'ombre et qui y resteront d'ailleurs, puisqu'en fait les scénaristes, pour un petit tour de passe-passe franchement pas très habile, vont balayer toute cette intrigue d'un revers de main, mais en fin de saison avec Conrad qui dit « mais l'initiative n'a jamais existé, c'était moi qui ai tout dirigé depuis le début. » Ah, Bon, d'accord.
Mais là, c'est Dallas avec Bobby qui se réveille dans la douche où on balaye d'un coup de revers de main toute une saison.
Ah, mais complètement. La saison 2, en fait, est quasiment inutile. Il n'y a pas grand-chose qui est retenu d'ailleurs dans cette saison 2.
Si je résume, Alias, Arrow, Dynasty, Dallas, Batman, Buffy... C'est un concentré de plein d'autres séries, en fait, Revenge.
C'est un concentré de plein d'autres séries. Et bizarrement, ça fonctionne encore parce que dans la saison 3, il rehausse un petit peu le ton. Il se recentre sur la vengeance d'Emily. Ça redevient à nouveau regardable et assez plaisant. Bon, je vais quand même encore parler d'un autre gros fail aussi de la série. Franchement, c'est la série qui est une sorte de petit plaisir coupable, hein, quand même, on va dire ce qui est. Parce que elle aurait pu aussi atterrir dans ma chronique Crénios. On va dire quand même ça comme ça.
Elle est sur le fil.
Elle est sur le fil, clairement. L'autre gros fail de la série, c'est la venue, l'intervention de nouveaux personnages, en fait, qui sont censés faire bouger l'histoire, mais qui en définitive ne servent à rien. Alors, je pense notamment à l'arrivée de la mère d'Emily, qui est jouée par Jennifer Jason Leigh, qu'on a ressorti vraiment d'un placard. Tiens, elle est encore vivante, celle-là. Ou le troisième fils de Victoria, qui arrive, elle a un troisième fils caché. Et là aussi, c'est quelques petits épisodes, et puis on les expédie...
Là, c'est le côté feu de l'amour. Là.
Ah, mais complètement, on ne sait pas du tout ce qu'il fallait en faire.
C'est parce qu'ils cherchaient un amoureux pour Nolan, donc ils se sont dit, on va en coincer un.
Oui, encore, il n'a pas servi à grand chose, en tout cas comme amoureux de Nolan. Quoi. Oui,
Sens que Sheila va arriver.
Voilà, et encore aussi, ce qui est un peu dommage, c'est les cliffhangers de fin de saison, qui sont parfois très décevants, parce qu'en fait, ils ont quand même l'art de mettre tous les personnages principaux dans une situation en sursis invariablement, et comme la saison suivante démarre chronologiquement toujours 6 mois après, eh bien c'est une façon assez pratique pour les scénaristes de se donner le luxe de pouvoir évacuer les cliffhangers qu'ils ne veulent pas développer. En fait, on a Jack qui avait été accusé du kidnapping de Charlotte et qui devient mystérieusement policier 6 mois après. Ok. Nolan qui est envoyé en prison pour terrorisme à fin de la saison 2 et début de la saison 3, on le voit sortir de prison en disant « Oh, mais j'avais mis un programme qui allait me disculper » et voilà, il sort de là et c'est fini. Ok, d'accord. Voilà, donc ça c'est un petit peu malheureux, mais malgré tout, il y a quelque chose qui fait que la série reste agréable à regarder comme un petit plaisir coupable. Assez sympathique.
Je ne sais pas si on vous aura donné envie de découvrir Revenge. En tout cas, c'est une expérience qui ne laisse pas de marbre, a priori. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour un prochain dossier d'Aux Frontières des Séries. Merci Sophie, merci Nat.
Retrouvez Aux Frontières des Séries sur le web. www.afds.tv.